Voilà, dimanche dernier, j'avais commencé un message et je pensais le terminer. Plusieurs ont manifesté un intérêt à ce que ce message peut-être soit un peu étouffé. Donc je vais le reprendre et aller plus loin. Et je me suis aperçu en le préparant cette semaine qu'il était plus important que je ne le pensais. Vous voyez, comme quoi parfois on pense à certaines choses et le Seigneur a d'autres points de vue, heureusement. Donc je vais aller un peu plus loin. Donc c'est la doctrine de l'amour. Hein, la doctrine de l'amour. Doctrine, je précise bien ce que ça veut dire. Hein, doctrine, c'est un ensemble de notions. C'est des notions qui parlent d'une même vérité. Hein, et toutes sont vraies. Toutes sont vraies. Donc c'est pas une théorie, c'est pas voilà une doctrine, c'est un ensemble qui affirme des choses vraies, mais on les met tous ensemble. Donc l'amour, hein, l'amour. L'amour, c'est une vérité, hein, mais c'est plus compliqué que ce qu'on pense, en tout cas l'amour selon la Bible. Hein. L'amour romantique, bon, voilà, ça peut être simple parce qu'on le chante et puis ça provoque des émotions chez l'autre, mais l'amour dans la Bible est plus compliqué parce que voilà, il regroupe un ensemble de notions qui sont différentes selon des points de vue. Alors il y a un livre qui a été écrit par le professeur Nouveau Testament, Donald Carson, là-dessus, et dont je m'inspire. C'est juste pour montrer qu'il y a des théologiens qui ont aussi réfléchi là-dessus. Cette doctrine de l'amour, qui est plus compliquée qu'on ne pourrait le penser, se simplifie quand on le prend sous cinq angles différents, cinq façons de comprendre l'amour de Dieu. Donc je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, je l'ai présenté sous forme de cercle. Hein. Donc il y a la première façon de voir l'amour, c'est l'amour dans la Trinité. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a l'amour. Hein, Dieu est amour. Hein, dis à ton voisin, Dieu est amour. Voilà. Donc en tant qu'amour, il représente l'amour, il est l'amour. Eh bien, à l'intérieur de la Trinité, Père, Fils, Esprit, hein, donc ces trois personnes qui communiquent dans l'amour. Voyez, donc l'amour est au sein de ces trois personnes qui ne font qu'une. Hein, et donc, c'est un modèle supérieur, déjà, d'amour. C'est un amour parfait dans la Trinité. C'est un modèle parfait d'amour, hein, bien sûr, qu'on n'atteindra jamais, puisqu'il n'est pas de l'ordre de la création, il est de l'ordre de l'incréation, hein, de l'ordre de Dieu. Hein. Donc, c'est un modèle, c'est un amour qui aussi s'appelle l'amour, hein, l'amour du Père et du Fils, l'amour du Fils et du Père et du Saint-Esprit, etc. Donc c'est un amour qui est là, mais qui ne permet pas de se comparer. C'est pas un amour. La première façon de voir l'amour, c'est qu'on va pas chercher à tendre vers cet amour-là. Enfin, on peut y tendre, mais on n'arrivera jamais, hein, puisque c'est l'amour parfait de Dieu. Mais c'est un modèle d'amour. On voit comment l'amour fonctionne. Nous avons ça dans Jean 3:35. Hein, où il dit que le Fils aime le Père et le Père aime le Fils. Et dans Jean 14:31, plusieurs fois, on voit cet amour au sein de la Trinité. La deuxième façon que la Bible décrit l'amour, hein, c'est l'amour providentiel, ce qu'on appelle la providence. Vous avez déjà entendu parler de la providence, hein. Donc là, je vais appeler l'amour de la Trinité l'amour de la providence. La providence, on voit cet amour-là déjà dans la Genèse, quand Dieu crée, la Genèse 1, quand Dieu fait la création, quand il établit la création. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois qu'il crée quelque chose, qu'est-ce qu'il dit, Joanne? Que c'est bon! Dis-le! Dis-le à côté de vous. Dis-le que c'est bon, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Dans la Genèse, quand vous lisez la Genèse 1, si vous lisez bien, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit c'est bon. Et quand il crée l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il dit? C'est très bon. Dis-le à ton voisin, c'est très bon. Vous voyez? Donc si tu as été créé, c'est parce que c'est très bon. Vous voyez, on sourit, mais si on pouvait faire ça tous les jours, hein, on serait peut-être moins déprimé. Eh hein, oui, parce que si tu dis, c'est très bon que le Seigneur m'a créé, c'est très bon parce que je suis une créature merveilleuse de Dieu, c'est très bon, eh bien, les esprits de dépression vont s'en aller. Hein, parce que on a la pêche, hein, comme on dit. Okay, voilà, donc c'est la providence de Dieu. Et cet aspect-là, on appelle ça l'ordre créationnel. Et le mariage est l'ordre créationnel, puisque c'est avant la chute, hein, Genèse 1, 2. Après Genèse 3, c'est fini, c'est la chute. Mais tout ce qui est créé, Genèse 1, 2, y compris le mariage, c'est très bon. Amen. C'est pour ça que l'ennemi, il veut toujours détruire ce qui est bon et ce qui est très bon. Hein. Ça, c'est son délice. Son délice, vous voyez, il s'amuse, l'ennemi, le diable, à détruire tout ce que Dieu fait. C'est tout ce qu'il fait, quoi. Et c'est son jeu, c'est sa vie. Hein. Alors surtout, rentrez pas dans ces jeux-là hein, de destruction, parce que c'est diabolique. Il ne fait que détruire. Il ne fait pas créer. Il ne crée rien, le diable. Il veut détruire. Il veut détruire le mariage. Il veut détruire le couple. Il veut détruire l'homme. Il veut détruire la femme. Il veut détruire la création. Il veut, voilà tout, tout. Ok. Donc ici, on a la providence. Donc quand la Bible dit c'est bon ou c'est même très bon, ben, c'est une façon d'aimer. C'est comme vous aimez la bonne cuisine, vous aimez votre jardin, vous aimez, voilà, quand vous dites, c'est une façon d'aimer. Hein. Donc cet amour se manifeste par la providence, qui est universelle. Quels que soient les humains, chrétiens ou pas chrétiens, le Seigneur manifeste sa providence. Il manifeste son soleil sur les bons et sur les mauvais. Sur les justes et sur les injustes, voyez. Dieu fait pas de différence. Il dit ah oui celui-là c'est injuste, donc le soleil il va aller sur lui et pas sur lui. Ok. Non, c'est la providence de Dieu. Donc ça c'est la deuxième manière de voir l'amour. La troisième, ceux qui étaient là, c'est quoi? C'est le salut. L'amour du salut. Alors on va tous répéter Jean 3,16, car Dieu qu'il a donné afin éternel. Alors dis à ton voisin quiconque. Il ne fait pas de différence, voyez-vous. Là encore, on est dans l'amour universel de Dieu. Quels que soient les humains, noirs, blancs, jaunes, rouges, chinois, quiconque. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Donc on est dans l'amour toujours inconditionnel. Là, c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition. Tous ceux qui sont créés sont au bénéfice de l'amour de Dieu au niveau de la providence. Tous ceux qui sont créés sont au bénéfice de l'amour, on dit salvateur, hein, du salut en Jésus-Christ. Et ça, déjà, ça va un cran plus loin parce que ça change les choses. Parce que la vie... Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la vie. La vie, vous êtes là, et demain, après-demain, vous êtes là. Hein, voilà. Comment est-ce que les gens du monde, les païens, ils voient la vie, à votre avis? Comment ils voient la vie? Comment ils voient le temps? Comment ils voient les choses? Et comment le chrétien les voit? Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est la question qu'il faut poser en premier. Comment est-ce que vous voyez la vie? Et comment est-ce que les païens voient la vie? Alors, essayez de répondre à la question qui vous semble la plus facile. Il y a deux manières de voir la vie au niveau de l'espace-temps, de la durée. Hein. Demain, après-demain, etc. L'éternité, tout ça. Donc, je repose la question. Celui qui a la réponse me la donne. Les païens, comment ils voient la vie? Et les chrétiens, comment ils voient la vie? Et ça change complètement la perspective, notre vision. Hein. Quand on n'a pas cette vision-là, eh bien, on n'a pas la vraie vision du royaume. C'est quoi les deux manières? Donc la vie des païens et la vie du chrétien. J'écoute. Ça dure un temps. C'est un temps. Les païens? Ah, alors tu es presque sur la piste. Enfin, tu es sur la piste. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire, les païens, c'est un temps, mais c'est cyclique. C'est-à-dire, on naît, on meurt. on meurt. Parce qu'il y a les générations, hein. Après toi, il y a une autre génération, Marie-France. Et avant toi, il y a une autre génération. Donc, ils savent bien qu'il y a des générations, puisqu'ils font des enfants. Donc, ils disent, voilà, on meurt. Donc, c'est cyclique. Voyez. Et c'est pour ça que les païens, malheureusement, certains chrétiens se font happer par ça, ils croient à la réincarnation. Il n'y a pas que les bouddhistes qui y croient. Attention. Le Nouvel Âge, tout s'est basé sur la réincarnation. Et François Mitterrand, il croyait à la réincarnation, il l'a dit à tout le monde. Hein. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être lower class pour y croire. La réincarnation, c'est le principe des païens. C'est une vision cyclique. Okay. Et les chrétiens alors, comment est-ce qu'ils voient le temps? Comment est-ce qu'ils voient la vision du temps? Pardon? Tiens, un mathématicien. Mathématicien, voilà. Il y a le mot juste, linéaire. Le temps est linéaire. La différence entre les deux visions, c'est qu'elle est linéaire. Eh oui. Genèse, Apocalypse. Ça ne recommence pas. La Genèse, ça commence. L'Apocalypse, c'est l'éternité. C'est linéaire. Il n'y a pas de réincarnation. Il y a pas de... Jésus est ressuscité une seule fois. Il ne va pas se réincarner, puis ressusciter. Vous voyez, il a fait son plan. Vous voyez, il y a du sens. Hello ? Je capte votre attention là. C'est absolument fondamental. Quand vous ne comprenez pas ça, vous avez du mal à comprendre le reste dans la Bible. C'est linéaire. Et dans cette manière linéaire, et il y a un temps qui est le centre de l'histoire, c'est le temps zéro, qui change toutes les données de l'histoire, c'est Jésus à la croix. C'est la croix. La croix. Et c'est pour ça que le christianisme est historique. Voyez-vous ? On peut se fier à l'histoire. Jésus est un personnage historique. Parce que dans toutes les religions, toutes, il n'y en a pas une seule où c'est mythique, c'est un mythe. Vous voyez, voilà, on croit à un mythe qui se réincarne, etc., la réincarnation, y compris ceux qui sauvent dans les différentes religions, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans l'histoire chrétienne, c'est historique. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle peut se vérifier historiquement. Voyez-vous ? Et quand vous parlez avec quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à faire attention à l'histoire. Et l'ennemi, il s'acharne à détruire toute l'histoire de la Bible. Il dit non, c'est un mythe. Les catholiques disent, oui, passage de l'Égypte, c'est un mythe. Ouais, tout est un mythe. Ouais, ouais, oui. Michel, qui travaille depuis 20 ans à l'école Notre-Dame, quand ils se réunissent, il est obligé toujours de détruire ces mythes. En disant, non. Passage de Moïse, c'est historique. Ça, c'est historique. Mais parce que tout est un peu des mythes. Vous voyez, c'est des mythes, c'est pour encourager les juifs. Voilà. Alors, pour encourager les juifs, on a écrit tel livre, et puis voilà, ça les encourage. Hein. Non, c'est historique. Amen. Voilà. Le troisième, c'est le salut. Là encore, on est dans l'inconditionnel. Dieu a donné. Il n'a pas attendu que l'homme fasse quelque chose pour le donner. Il a donné son Fils. Il n'a pas attendu. Il a sauvé l'humanité du péché. Parce que l'humanité était piégée par le péché, par Adam, qui a entraîné toute l'humanité dans sa chute. Donc là, c'est encore une grâce, mais vous voyez, on est déjà un peu plus loin que la providence. On est là dans l'inconditionnel de Dieu pour le salut. Ensuite, quatrième façon de voir dans la Bible l'amour se manifester, c'est l'amour dans quoi ? Allô ? Pour ses élus. Vous connaissez les chants When the Suns, hein, tous les chants noirs américains là. Les élus, comment ça s'appelle le chant des élus là ? Je cherche ouais, Sweet Chariot. Sweet Chariot. Vous voyez, les élus. Hein. Les Noirs américains, ils avaient compris ça. Hein. Ils avaient compris, ils étaient élus. Hein. Même s'ils étaient esclaves, ils étaient élus. Et c'est la plus haute dignité qu'on peut avoir, d'être élu par le Père. Amen. Tu es élu ce matin? Alors dis-le à ton voisin, je suis élu par le Seigneur. Amen. Avoir conscience d'être élu, mes amis, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur par l'amour de Dieu. Dieu vous aime comme ses enfants. Amen. Mais c'est important ça. Si vous ne sentez pas tous les matins que vous êtes élu, ben vous allez vous déconsidérer, vous allez voilà, ça ne va pas bien aller, quoi. Vous êtes élu du Seigneur. Amen. Vous avez été, d'une part, racheté. Et comment se fait l'élection par rapport... Parce qu'ici, Christ est mort il y a 2000 ans. Hein, il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, comment tu sais que tu es élu ? Ruben, comment tu sais que tu es élu ? Comment tu sais que tu es élu ? Parce qu'il faut avoir une assurance, il faut juste le dire. Il faut être sûr qu'on est élu. Stéphanie. Par la foi. Mais mieux que par la foi, c'est que la Bible dit que l'Esprit, par la foi, te donne la possibilité de dire « Abba, papa ». Est-ce que tu peux dire « papa » ? Eh bien, quand on peut dire « papa », on sait qu'on est élu. Parce qu'on a un papa. Et qu'on peut lui parler, ce papa. Hein ? Oui ? Adopté. Adopté comme fils, comme fille. Amen. Vous voyez, c'est déjà un peu plus loin que l'histoire du salut. On sait que Jésus est mort il y a 2000 ans, ça. On peut le savoir. Mais savoir qu'on a un papa et qu'on est aimé de ce papa, ça, c'est être élu. Hello ? Je capte votre attention, là ? Oui. Donc, vous voyez, c'est dans l'amour, dans la manifestation de l'amour, il y a quelque chose de particulier de l'amour dans la Bible pour les élus. OK ? Donc, pour les élus. Alors, les élus, il y a deux catégories. Enfin, il y a les élus de l'Ancien Testament, qui s'appellent comment ? Israël. Et les élus du Nouveau Testament, et nous, c'est l'Église. Mais l'Église comprend aussi Israël. Israël est compris dans l'Église, c'est toutes les nations, y compris Israël. C'est toute la difficulté qu'avaient les premiers apôtres, parce que Pierre, à un moment donné, était tiré en arrière par les gens qui étaient sur l'Ancien, les Juifs, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'Église. Donc là, on a l'amour pour l'Église. Hein ? L'amour pour l'Église. Alors là, c'est fort. Là, c'est fort. Là, c'est extraordinaire. Comment s'appelle l'Église aussi ? Il y a un tas de noms pour l'Église. Voilà. Il y a le corps de Christ, il y a l'épouse. Mais l'épouse, c'est beaucoup plus fort que le corps. Vous rendez compte que l'Église, que nous, je parle hommes et femmes, hein, nous sommes l'épouse du Seigneur. Extraordinaire. Le Seigneur a une épouse. Et il aime parce qu'il a donné sa vie à son épouse. Vous voyez l'amour, la force de l'amour, la profondeur de l'amour. Et donc là, on rentre dans cette notion de l'amour. Quand on est élu, on est conscient, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous dit « Abba, Père ». Dans notre cœur, on sait qu'on peut dire « Papa ». On peut l'appeler papa, on peut prier papa, on peut lui demander, on peut l'adorer, on peut... Vous voyez, c'est toute cette proximité avec le Seigneur, la présence du Seigneur. Les élus. Amen. Et le dernier amour qu'on voit dans la Bible, c'est quoi comme amour ? Ça concerne quoi ? Tu n'étais pas là dimanche dernier ? Ah, voilà. Je le voyais. Sur ta tête. Parce que tu sais tout en général. Alors, c'est quoi ? L'amour pour les disciples. L'amour pour les disciples. Oh ! Il y a une différence entre les élus et les disciples ? Hello ? Il y a une différence entre les élus et les disciples ? Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il des différences entre les élus ? Tu es chrétienne, tu connais le Seigneur. Pourquoi il y a une différence entre élu, tu es adopté comme fille de Dieu, et un disciple ? Tu ne penses pas ? Si, la Bible fait une différence. C'est pour ça qu'on fait les messages là, ce matin. Pardon ? Alors, on va y arriver. C'est pour que vous compreniez bien que je m'arrête un petit peu. Il y a une, je veux dire, il y a une différence entre tous ces amours-là. Celui-là, je le laisse de côté. Hein. Comme je l'ai dit, c'est le modèle auquel on n'arrivera jamais. C'est un modèle divin. Mais c'est un modèle, mais on peut s'en inspirer. Mais ici, 2, 3, 4, c'est un amour inconditionnel. D'accord ? Ça veut dire inconditionnel ? Il n'y a pas de condition. Cet amour s'applique à n'importe qui. Qu'il le demande, qu'il ne le demande pas, qu'il le veuille pas. Après, il en bénéficie, il n'en bénéficie pas. Il y a des inconvertis qui, s'ils rentrent dans le mariage, ils sont bénis. Parce qu'ils sont dans l'amour de Dieu. L'amour, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu est amour. Il n'y a personne d'autre qui est amour. Le diable n'est pas amour. Hein. Le diable est tout sauf amour. Mais Dieu est amour. Et le mariage, dans l'ordre créationnel, eh bien, il a été créé par Dieu. Et tous ceux, y compris ceux qui ne croient pas en Jésus, peu importe, ils ont bénéficié, ils bénéficient de cet amour inconditionnel, de l'ordre de la création, de l'ordre du salut jusqu'au jour où ils acceptent, ils deviennent élus, mais il est toujours disponible. Jusqu'à la dernière seconde de leur mort, ils peuvent l'accepter. Voyez ? Donc c'est un amour inconditionnel. Par contre ici, c'est tout à fait différent. C'est un amour conditionnel. Dis à ton voisin, c'est un amour conditionnel. Le disciple, c'est un amour conditionnel. C'est différent de l'amour des élus, qui est l'enfant qui est adopté. C'est un disciple. Et quand on dit disciple, qu'est-ce qu'on attend ? Un disciple a un maître. Et combien il y a de maîtres dans le monde ? 2 maîtres. Il y a le monde et il y a Dieu. C'est l'enseignement de Jésus dans Matthieu. Okay ? Quand il parle de ne pas avoir de soucis dans le quotidien, de se faire du souci pour les choses de la vie, etc. Il a dit, attention, il y a 2 maîtres. Il y a le diable et Dieu. Il y a le mammon et Dieu. Donc, le disciple, le problème, c'est qu'il est confronté à 2 maîtres. Vous voyez ? Il est confronté à 2 maîtres. Et il doit choisir. Alors, il y a un petit chant qui disait ça. Il doit choisir. On chantait quand on était jeune. Je me rappelle de la mélodie, mais je ne sais plus les paroles. Il y a 2 maîtres, il faut choisir. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. C'était quand on était étudiant. Pardon ? Voilà. Merci. Vous voyez l'assistante, l'aide. Ça sert, hein ? Voilà. On le chantait tout le temps quand on était jeune à Paris, quand on était étudiant en 68. Un jour, il faut décider. Il y a 2 maîtres. Il n'y a pas 3. 2 maîtres. Le disciple, ou on est disciple du monde, ou on est disciple de Dieu. Et le problème, c'est que ces 2 maîtres ne s'entendent pas. Eh oui. Dieu, il a horreur du diable. Parce que il sait qu'il veut tout détruire. Parce qu'il est en rébellion. Donc Dieu a horreur du diable. Et il veut que nous, on ait horreur du diable aussi. Voilà. Parce que le diable, il ne fait que détruire. Et il fait détruire nos vies, il fait détruire tout ce qu'il veut. Donc il veut nous préserver. Parce que c'est un père, un papa qui est bon. Il veut des bonnes choses. Donc il veut nous préserver de ça. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il nous manifeste cet amour conditionnel. Parce que jusqu'ici, si vous voulez, l'amour inconditionnel, eh bien nous bénéficions. Nous sommes des bénéficiaires, nous sommes des assistés, nous sommes là, nous recevons de Dieu et tout ça. Mais ici, Dieu veut que nous exercions notre liberté. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, qui est libre. Et s'il n'y avait pas cet amour-là, si ça s'arrêtait là, mais on resterait des pantins. On resterait des pantins. Ou des enfants qui sont sous le contrôle, oui, jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a des papas, des mamans qui veulent continuer le contrôle après. Mais vous voyez ce que ça donne sur les enfants. Hein. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur destinée. Si on veut rentrer dans la destinée, il faut devenir libre. Okay ? Et donc, en devenant libre, donc c'est cette croix, ça que je mets ici. En devenant libre, de là, on passe à la liberté. Et ça, c'est toujours très difficile de passer d'un d'une situation d'assisté à une situation de liberté. Regardez en Russie. T'es sous le communisme, paf, le mur tombe. Waouh, c'est le chaos, quoi. Ils ne savent pas s'organiser. Ils veulent de nouveau un tyran, ils veulent de nouveau quelqu'un qui les tienne. Voyez, la liberté, c'est très très difficile de l'exercer, surtout quand on n'est pas habitué. Mais c'est ce à quoi nous avons été créés. Dieu nous a créés libres. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas appris à vivre cette liberté. Et toute la difficulté de cet amour-là, c'est d'apprendre la liberté. Alors, juste un scoop pour ceux qui sont un peu plus avancés que les autres. Du 4 au 5, c'est la vision de l'Église. La vision de l'Église, ça explique le paradigme, la manière de passer du 4 au 5. C'est ça la vision. Ceux qui n'ont pas encore bien saisi la vision de l'Église, c'est aider chacun d'entrer dans sa destinée. Et d'aider l'Église, en tant que communauté, à rentrer dans sa destinée. Et c'est ça la vision. Si vous comprenez la vision de l'Église, d'une part, vous-même, vous pourrez entrer de là à là, et l'Église peut entrer de là à là. Pour moi, l'Église ici, il n'y a que depuis 2013 qu'elle a commencé à rentrer dans cette vision-là du 4 au 5. Mais ça, c'est un autre message que vous ferez plus tard à la rentrée. Juste pour dire que du 4 au 5, donc je prends juste cet arc de cercle, 4 au 5, on peut, alors attention, ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est comme la Trinité, hein, ce n'est pas écrit, mais vous pouvez le découvrir dans la Bible. Il y a 6 stades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stades. Vous pouvez passer de là à là, à là, à là, à là, à là. Bon, pour certains, ils peuvent sauter. Je ne sais pas s'ils sont assez athlètes, ils peuvent sauter. Il y a 6 stades. Ça s'appelle les stades de la foi. Les stades de la foi. Et ici, il faut la foi. OK ? La foi pour le salut. OK ? Mais ensuite, après, il y a d'autres stades. Alors certains, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais certains théologiens, et Jacques Poujol, Cosette Fébrissy et tout ça nous l'a enseigné il y a quelques années, je ne sais pas si on a encore les enseignements sur l'Église, mais vous pouvez y aller s'ils existent, ils nous ont enseigné là-dessus pendant plusieurs semaines. Ils sont venus pour nous enseigner ça. C'est qu'il y a une analogie entre la croissance... la croissance psychologique et la croissance spirituelle. Je m'explique. Quand vous êtes venu dans le monde, vous avez commencé à exister, à vivre. Donc vous avez commencé ici. Hein, que ce soit dans le monde psychologique ou le monde spirituel. Vous êtes né de nouveau, votre vie a commencé avec le Seigneur. Amen. Mais quand vous étiez bébé et que vous faisiez dans vos couches, tout le monde faisait dans ses couches, ou alors il y en a qui n'avaient pas de couches, mais en tout cas, voilà, ils étaient dans ce stade-là. Ok, tous. Il y en a un qui est venu comme ça, d'un coup, adulte, non? Donc on est tous dans ces mêmes conditions. Donc on était un petit enfant qui avait besoin des autres. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Ça s'appelle la foi de l'enfance. Hein, alors, certains l'appellent d'une certaine manière. Jacques, qui l'a francisé, parce que c'est les Américains qui ont fait ça, il l'appelle la foi magico-religieuse. C'est quoi la foi magico-religieuse ? Foi magico-religieuse, c'est je prie le Seigneur. Seigneur, je veux maintenant un vélo. Ah, le lendemain, il y a un vélo. Extraordinaire. Le problème, c'est que... Alors ça, c'est quand on se convertit, c'est comme ça. Hein ? Non ? Il n'y en a pas qui ont vécu ça. Des choses incroyables qui se passent quand on se convertit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il répond comme un enfant qui dit, tu as envie de ça ? Hop, je te le donne. Mais si on reste dans ce stade-là, on se fait une idée que Dieu est comme un papa magique. Ah, à Noël, bah, je croyais que c'était le Père Noël. De seul coup, waouh, j'ai des cadeaux. Mais d'où est-ce qu'ils viennent ? Bah, c'est mon papa, c'est ma maman. Bah, sur le plan spirituel, bah, c'est Dieu qui m'a donné. Et si on reste à ce stade-là, toute la vie, on s'attend à ce que Dieu agisse comme ça. Et il y en a qui restent bloqués là-dessus. Des chrétiens qui restent bloqués là-dessus, quelle est leur vie ? Paf, 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 Dieu agit, Dieu n'agit pas. Dieu agit, Dieu n'agit pas. Dieu agit, Dieu n'agit pas. Toute leur vie, c'est une dent de scie. C'est ça? Vous en connaissez, les chrétiens, comme ça? Moi, j'en connais tout plein. Mais je ne citerai personne. Parce que c'est la majorité des chrétiens, c'est ça. C'est du magico-religieux. Alors, aujourd'hui, le message, ce n'est pas là-dessus, donc je ne vais pas développer les autres stades de foi. Mais ici, c'est la foi mature. OK? Ici, c'est la foi mature. Ici, c'est la foi immature. Là, c'est la foi mature. Nous avons besoin d'entrer dans une foi mature sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sachant que si tous les chrétiens d'une église sont matures, l'église est mature. OK? Donc ça, c'est bien. Mais parfois, ce sont les leaders d'abord qui doivent être matures. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas être leader. Parce que si les leaders ne sont pas matures, ils ne peuvent pas emmener quelqu'un plus loin qu'ils ne sont. Donc il faut qu'ils soient matures. Okay? Et ça prend du temps. Des fois, ça peut être rapide. Hein? Timothée est allé assez vite à cette fois-là. D'autres, ils n'y sont pas allés. Voilà. Alors, quels sont... Alors, je passe tout ça... Hein? Parce que ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Et je reviens à l'amour inconditionnel. Conditionnel, pardon. Voilà. L'amour conditionnel. Alors, à chaque fois, il faut qu'on en rachète un des. Parce qu'on était conditionnel. Comment s'exprime l'amour conditionnel dans la Bible? Alors, on a vu l'amour... pour la création, Genèse 1, on a vu l'amour du salut, Dieu a tant aimé le monde, etc. Comment s'exprime, donnez-moi un verset, peu importe, de cet amour conditionnel, qui est donc, on va l'écrire, l'amour numéro 5, enfin la manière. Hello? C'est le si, alors. À chaque fois que vous rencontrez dans la Bible, et je peux vous garantir que c'est nombreux, hein, si cet été vous êtes sur la plage, vous ne savez pas quoi faire, prenez votre Bible, la Genèse à l'Apocalypse, et vous regardez tous les si alors. Je vous défie de trouver des centaines et des centaines et des centaines de versets. Si alors, si alors, si alors. Donnez-moi un si alors. J'en ai entendu un là.
Si vous demeurez en moi et que mon amour demeure en vous,
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non.
C'est le verset par excellence qui est mal compris quand il n'est pas compris comme ça. Il y a une fédération de famille d'église qui a ça, mais je ne citerai pas laquelle, qui croit ça. Hein. Voilà, on est une nouvelle création, on est une nouvelle créature. C'est complètement faux. Ce qui est vrai, c'est que ça rentre dans ce cadre-là. Si vous êtes en Christ, alors vous serez une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il est tout le temps en Christ? Lève la main. Donc vous n'êtes pas une nouvelle créature. Ah non, mais c'est ça. Alors, je suis désolé, les jeunes, hein, parce que vous pensiez être en vacances. Eh bien, ce matin, vous ne serez pas en vacances. Je vais faire des mathématiques. Qu'est-ce qui est bon en maths? Waouh, tu viens? Ah, viens. Tu écris? Non, non, mais je ne vais pas t'obliger. Ça ne te gêne pas? Non? Non, non, mais... Allez. Alors, je parle sous le contrôle des professeurs de mathématiques qui sont là. Hein. Attention, hein, je ne dis pas de bêtises. Alors, si, alors, je vais vous dire une chose, c'est une révélation que j'ai eue cette semaine. Hein, j'ai rien prémédité avant. Mais d'un seul coup, j'ai dit, mince alors, mais j'ai une expérience à mon travail. Je travaillais à EADS. Et puis, on m'avait confié... De monter un service de 200 personnes pour fabriquer les composites. Donc les parties hautes d'Ariane, parce que vous savez, Ariane, ils ont gagné les marchés, hein, sont les premiers au monde avec les Américains pour lancer des trucs. Mais il fallait se lancer dans le carbone, dans les matériaux composites très légers, très très légers, mais très solides. Et à l'époque, quand je suis arrivé après ma sortie d'école, on m'a dit il faudrait se lancer là-dedans. Et puis moi, comme je suis très inventif, ingénieux, tout ça, bof, ils l'ont vu, ils me l'ont mis là-dedans. Hop, 200 personnes à diriger pour fabriquer des nouvelles formes de carbone. Et là, j'ai vu que c'était très difficile à trouver des gens qui sont assez performants pour trouver les astuces. Parce que, vous savez, la métallurgie, ça fait 200 ans, 300, non, même plus, depuis Mathusalem, les métallurgies, ça existe, faire de la fonte, du machin. Voilà. Mais le carbone, c'est tout récent. Hein. Tout récent. Hein. C'est à peine une quarantaine d'années d'expérience. Et donc, les techniciens que j'avais, j'en voyais un qui était hyper doué, il me trouvait toujours les solutions. Et il allait partir à la retraite. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Il part à la retraite. Waouh, toute cette expérience va disparaître. Alors je dis, il faudrait qu'on trouve un moyen que lui, il transmette son expérience aux jeunes. Ok, mais comment faire? Alors il se trouve que le Seigneur m'avait, à l'époque, fait une formation d'ergonome. L'ergonome, ça veut dire l'adaptation au travail. Et j'avais avec moi le directeur du CNAM, qui maintenant est directeur du CNAM, qui était professeur à l'INRIA, l'intelligence artificielle, à Roquencourt. Et à l'époque, moi, j'étais impressionné par tout cet apport de la connaissance cérébrale, du cerveau et tout ça. Et je lui ai partagé ça, je lui ai dit, voilà mon souci. Il a dit, écoute, si tu veux, on peut travailler ensemble. Moi, j'ai une fille qui fait un thésard, et je vais la mettre là-dessus avec toi, et comme ça, on va travailler ensemble. Je dis, ok, alors c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Ok, je ne connais rien. Il m'a donné des cours d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle utilise le si-alors. C'est pour ça que je dis, mince, si-alors. Parce qu'il a dit, oui, on va faire un logiciel, on va extraire tout le savoir. Donc on a travaillé 3 mois avec la thésarde à faire des enregistrements, tout ça, de toutes ces expériences. On va extraire son savoir, on va le mettre dans un logiciel d'intelligence artificielle, puis après on va le donner à ces petits jeunes là, et lui, il va dire, voilà, j'ai tel problème, tac, 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 qu'est-ce que je fais? Et l'intelligence artificielle lui dire, mais écoute, dans tel problème, il faut faire ça, 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 etc. Et lui, il va apprendre, alors que l'autre, il est sur la plage et puis il est en retraite. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'était ça l'idée. Voilà. Et ça m'a dit, mais c'est incroyable. Et pourquoi ils utilisent les si alors? Parce que c'est le langage le plus intelligent qu'aujourd'hui on puisse trouver en informatique. Ça permet de faire des robots intelligents, etc. Parce que la programmation classique ne suffit pas. Il faut de l'intelligence. Et je dis, mais alors, le Seigneur, il utilise de l'intelligence pour parler à ses disciples. Hello? Amen. Il nous croit intelligents. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Hein? Le Seigneur nous croit intelligents. Alors, tu vas écrire ici la logique mathématique qui sous-tend, parce que c'est mathématique, hein? pour être informatique, c'est mathématique. Ça s'appelle la logique, tu écris la logique. Hein? Pardon? Oui, tu écris la logique. Ah, il écrit bien, hein. La logique de contraposition. Voilà, la logique de contraposition. Alors, contrat, comme contraire, contrat, la logique de contraposition. C'est des logiques qui sont utilisées, de logique booléenne, etc., pour créer ces robots intelligents. Voilà. Alors, tu écris le A ici. Ici, tiens, juste là, A. Et là, B. Voilà. Alors, une fois qu'on avait extrait la connaissance de ce technicien, on l'a mis à chaque fois sous forme si alors. Si A, alors B. Voilà. Si A, alors B. Alors, ça s'applique partout. Ça, c'est une logique qui prouve que c'est vrai. C'est comme ça qu'on peut faire des robots qui ne se trompent pas, parce qu'on sait que c'est vrai. Si A implique B, alors tu mets ici, moins B, prouve A. Ah, moins B, moins A, moins A, moins A, moins A, moins A. Tu mets moins A là. Moins A, voilà. Et entre les deux, on va mettre un signe mathématique qui est, alors je vais te le dessiner, ça me, voilà, qui est ça. Voilà, c'est implication. En termes mathématiques, c'est A implique B et moins B applique moins A. Un exemple, parce que c'est un peu théorique, hein, je suis désolé. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Si le sol n'est pas mouillé, alors il ne pleut pas. Ouais. Pas compliqué. S'il pleut, le sol est mouillé. Si le sol n'est pas mouillé, il ne pleut pas. Et quand on utilise des logiques comme ça, dans l'informatique intelligente, on est sûr que c'est vrai. Et Dieu a utilisé ça pour parler aux disciples. Les promesses de Dieu sont des promesses si alors qui sont vraies. Donc non seulement on s'appuie sur la parole de Dieu, mais en plus à l'intérieur de la parole, c'est une logique de contraposition qui prouve que c'est vrai. C'est fantastique ça. Alors, on devrait vraiment demander pardon à Dieu de ne pas croire ses promesses. Parce que non seulement elles sont vraies parce qu'il le dit, mais en plus elles sont vraies parce que même l'homme qui les utilise après pour faire des trucs intelligents, eh bien voilà, il le trouve. Alors, je vais faire un petit dessin pour faciliter la compréhension mathématique. Alors, c'est la théorie des ensembles. Voilà. Si on dessine un carré, on dessine le A, on dessine le B et le C. Ouais, c'est tout simple dans la théorie des ensembles. Si le sol est mouillé, si il y a de la pluie, le sol est mouillé. Si en dehors du sol mouillé ici, il est sec, bien ça veut dire que la pluie n'est pas venue là. Voyez. Donc la pluie ne mouille que le sol qui est mouillé. Voyez. Donc avec la théorie des ensembles, on voit que c'est pas possible. Vous pouvez pas être là, hein, parce que là, il est exclu de A, il n'est pas dans A. Vous voyez, le C, il n'est pas dans A, il n'est pas dans B, il n'est pas dans A. Donc, vous voyez, donc, rien qu'avec le dessin, vous voyez que c'est vrai. Hein, voilà. Donc, nous sommes dans une logique qui sont une logique mathématique qui prouve que c'est vrai. Je vais regarder ce que je vais vous dire après. Alors, on va prendre quelques exemples. Il y a ma feuille d'exemple, sinon il faut que je les invente, mais en principe, je dois les avoir. Ah. Matthieu 16, 24. Non, tu peux t'asseoir, merci. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, c'est Jésus qui parle de ça au moment où il crée l'Église. Vous voyez, donc, quand il crée l'Église, il dit, attention, l'Église, il y a une conséquence derrière. Et tout de suite après avoir créé l'Église, il dit à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il dit la suite? Qu'il... Alors, si quelqu'un veut me suivre, vous mettez le alors, hein, si, alors... qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que c'est vrai? Mathématiquement, on va le vérifier. Si quelqu'un ne renonce pas et si quelqu'un ne prend pas ma croix, il ne peut pas me suivre. Voyez-vous, c'est pour ça, pour devenir disciple, il faut devenir mature. Parce que Dieu nous engage dans une relation de maturité d'adulte. Il ne nous prend plus pour des enfants. Il dit, si tu veux devenir mature, il faut que tu commences à croire dans ma parole. Que je te bénisse, que tu reçoives des grâces, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu deviennes mon disciple qui, à ton tour, va bénir les autres. Parce que tu es sur la terre, moi je suis dans le ciel, et toi, je vais t'utiliser. comprenez la logique? Le disciple, il va suivre le maître pour faire comme le maître, mais pour faire comme le maître, il faut qu'il obéisse à ses injonctions. Et ces injonctions ne sont pas pénibles, elles sont logiques. Si quelqu'un veut me suivre, ça implique qu'il renonce et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. S'il ne le fait pas, il ne peut pas me suivre. Pourquoi croyez-vous que moi je crois autant au torrent qui purifie? À cause de ça. Il n'y a que le torrent. Enfin, le torrent, attention, le torrent, c'est le torrent d'Ézéchiel. Hein. Torrent 47, je vous parlerai plus tard du torrent. Mais la méthode du torrent que nous faisons, c'est pour rentrer dans le torrent d'Ézéchiel, torrent qui bénit la ville et qui transforme la mer morte en mer vivante. Parce que dans Ézéchiel, on voit que la mer morte, le Jourdain, il devient les poissons dans la mer morte. Voyez-vous ? Et nous, ce que nous voulons, c'est des poissons vivants. Dans la ville, dans cette région, etc. Et donc, nous devons devenir eh bien, des disciples. Et donc, il faut appliquer ces logiques de contraposition. Parce que dans ça, c'est la position contraire. Eh bien, elle est vraie. Elle prouve que c'est vrai. Deuxième exemple. Josué 1.8. Si tu obéis à mes commandements, à ma parole, etc., alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu ne réussis pas dans toutes tes entreprises, alors c'est que tu n'obéis pas à tous mes commandements. Comprenez la logique? C'est du torrent qui purifie. Dans le torrent qui purifie, on dit marchez par l'esprit et vous ne marcherez pas par la chair. Quand on marche par la chair, on marche en dents de scie. Quand on marche par l'esprit, on applique ces principes-là. Autre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on l'a dit, si tu es en Christ, alors, tu es une nouvelle créature. Si tu n'es pas une nouvelle créature, bien alors tu n'es pas en Christ. Oui. C'est conditionnel. C'est conditionnel parce que ça s'adresse à des êtres libres et responsables. Amen. Je suis en train de préparer un message sur 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 18. Et ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est le rôle de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont aussi dans une logique de contraposition qui prouve effectivement qu'il y a des rôles qui sont attribués par Dieu. Et nous verrons ça lorsque nous aborderons ce verset. Voilà, donc désolé pour les mathématiques, hein, mais moi ça m'a beaucoup parlé. Parce que ce principe d'implication contraposée prouve que l'homme aujourd'hui qui cherche l'intelligence, il trouve cette logique-là que Dieu a utilisée depuis la fin des âges, parce que Dieu c'est le plus intelligent, hein, et il utilisait déjà ça pour nous aider à marcher, pour devenir plus que des robots intelligents, pour devenir des personnes qui sommes libres et responsables et qui pouvons entrer dans le plan de Dieu pour chacun de nos vies. Amen. Le but de l'Église, c'est ça. Hein, et donc, je vais le dessiner dernière fois. Si vous avez ici, alors, Ézéchiel 47, hein, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, parce que j'ai terminé le message. Ézéchiel 47, hein, tout le chapitre, vous avez le temple. Le temple d'Ézéchiel, hein, qui est un temple de vision, hein, c'est pas le temple de Salomon, c'est un temple que Dieu a révélé pour la fin des temps. Hein. Le temple d'Ézéchiel, c'est un temple qu'à une certaine mesure, hein, le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu. Et la particularité de ce sanctuaire, c'est quoi? Dans Ézéchiel 47, c'est qu'il y a un torrent qui sort du côté de l'est. C'est pas tout ça, c'est pas par hasard, c'est de l'est. Mais il coule vers le sud. Il coule vers le sud. Ok. Et dans le sud d'Israël, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le torrent qui coule, le grand torrent, le grand fleuve qui coule en Israël? Le Jourdain. Le Jourdain, il prend sa source où ça? Césarée de Philippe. Césarée de Philippe. C'est là que Jésus a établi son église. Il les a tous réunis, ses disciples. Il a dit à Césarée de Philippe, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Je vous donne les clés, liées, déliées, etc. Jésus a établi l'église à Césarée de Philippe. C'est la source du Jourdain. Et ici, c'est la mère morte. Ok ? Ceux qui ne savent pas, ils regardent dans le livre de géographie, le Jourdain se coule dans la mer morte, salée, où il n'y a rien qui pousse. Tous ceux qui vont en Israël vont à la mer morte et ils flottent comme je ne sais pas possible. Voilà, parce qu'elle est salée et rien ne pousse. Et qu'est-ce que dit Ézéchiel 47 à propos de ce fleuve ? Parce que tout ça, c'est allégorique, hein, c'est une réalité spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien que ce fleuve, il coule, et ici, il rentre dans cette mer morte, et il y a des poissons qui vont revivre. Hello ? Voilà. Pourquoi ? Parce que ce fleuve, et tout le TQP est basé là-dessus, hein, tout le temps qui purifie, c'est ça, c'est pour que nous puissions rentrer dans ce fleuve, et dans le TQP, on y passe plusieurs fois, hein. Toute la vie, on passe dans le torrent. Toute la vie. Parce que c'est un fleuve qui nourrit. Hein, dis à ton voisin, il nourrit. On a besoin de nourriture. Il nourrit. Et il guérit. Dis, il guérit. Ce matin, on a chanté un chant. Oui, guérit la nation. Alors, je l'ai noté là. Non, je ne l'ai pas noté là, oui. L'Église. Ouais, que ton cœur attend. Hein. Nous voulons être l'Église que ton cœur attend. Si nous voulons être l'Église que ton cœur attend, on l'a chanté. Il faut passer par le torrent. Allô ? Parce que seul le torrent peut nourrir et guérir. Et les feuilles sont pour le remède des nations. On le retrouve dans l'Apocalypse. Et vous, seul ce torrent-là peut purifier. Et ce qui est extraordinaire, que vous soyez ici, à Aubergenville, dans l'église, c'est que ça va s'accomplir prophétiquement. Ouais. Parce que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. En fait, la ville d'Élisabeth-ville a été tournée vers le nord, et nous, on va tourner les choses vers le sud, selon le torrent d'Ézéchiel, pour que tous les habitants de cette ville, y compris Élisabeth-ville, parce qu'il n'y en a plus beaucoup derrière, tous sont devant, Aubergenville, et bien puissent devenir vivants. Amen. Et je prophétise maintenant que tous ces poissons qui sont morts puissent revivre par la puissance de l'Esprit et par cette Église qui va se lever comme un seul homme, que tu vas, Seigneur, rendre vivant au travers de ce torrent qui purifie, Seigneur, pour que nous puissions être vraiment des vainqueurs et que nous puissions gagner cette ville et cette région à Jésus-Christ, non pas par nos forces, mais par tes forces, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est ça qu'on fait. Et les sentinelles qui sont en place aujourd'hui, que vous allez rejoindre, les quatre sentinelles, c'est pour ouvrir ce torrent qui va balayer. Parce que l'ennemi a voulu faire une œuvre qui le trompe. Il a installé ici un sanctuaire malsain. On a mis 12 ans à le purifier. Parce que, voilà, Dieu nous a donné, on ne savait pas. Dieu nous a livré le sanctuaire. Maintenant, il faut ouvrir la brèche et faire. Et ça, c'est les chrétiens matures qui feront ça. Ça, c'est les chrétiens matures et l'Église mature. Et depuis 2013, nous sommes rentrés dans ce circuit. Je ne vous raconterai pas pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Depuis 2013, on est rentrés dans cette dynamique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu va amener des gens, des intercesseurs, des personnes qui ont des grosses pointures, je dirais, spirituelles au sens de maturité, eh bien, pour nous aider à entrer dans cette destinée. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et je sais qu'il l'a révélé aussi à vous, au fond de votre cœur, vous le sentez, parce que c'est une réalité. Et pour cela, il faut qu'on soit dans cette logique de, Charles, contrat, position. Tu connaissais ça en mathématiques ? Ah ben voilà ! Donc tu vas nous l'enseigner après. Hein. De contrat, position. C'est-à-dire les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Les promesses de Dieu sont vraies. Et dans leur énoncé, elles sont vraies. Vous ne pouvez pas leur faire dire le contraire parce qu'elles sont vraies. Et si on les applique, on sait pourquoi, si on est en dents de scie, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on a besoin de faire des progrès pour aller en avant? Pourquoi, etc. Et ça va nous aider à vraiment nous affermir dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la vérité, et la parole de Dieu va nous aider à devenir matures, mûres en Jésus-Christ, aussi bien individuellement que collectivement. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, non seulement elle est la vérité, mais en elle-même, Seigneur, ces paroles sont vraies. En elles-mêmes, ces énoncés sont vrais. Et Seigneur, nous ne pouvons pas te prendre en défaut parce que ce que tu dis, nous pouvons l'appliquer. Seigneur, donne-nous simplement de grandir en maturité. Chacun d'entre nous, Seigneur, là où nous sommes. Et nous savons que l'Église aussi va grandir à mesure que les chrétiens vont grandir. Seigneur, pour que nous puissions exercer pleinement la mission que tu nous appelles à faire, non pas par nos forces, mais par tes forces, Seigneur. Parce que nous allons, dans cette liberté du torrent, pouvoir te laisser agir, Seigneur. Aujourd'hui, nous contrôlons ce que tu fais par la chair. Nous la contrôlons et nous t'empêchons, Seigneur, de nous conduire et nous te demandons pardon. Seigneur, merci aussi de bénir Elsa qui conduit ce TQP. Tu as mis dans son cœur un feu pour conduire ces choses et tu enlèveras d'autres, Seigneur. Je sais qu'il y a d'autres qui vont se lever. Parce que, Seigneur, dans ces parcours du torrent, tu vas construire chacun individuellement sur ta parole et tes promesses qui sont conditionnelles. Des promesses conditionnelles, Seigneur. Si nous avons reçu l'amour inconditionnel, maintenant, Seigneur, nous sommes dans l'amour conditionnel où, Seigneur, les hommes et les femmes, quand ils vont nous voir, ils voient que nous sommes libres et responsables du trésor que tu as mis dans nos cœurs. Nous te remercions pour cela, au nom de Jésus.